l'heure où je suis en train de vous parler, puisque vous l'avez compris, l'émission est enregistrée, il y a Wax, mon corps chief and the gang, demain Kenji Girac, Kyo et Ayo, vendredi Pascal Obispo, Ben Mazuet, Stilto, samedi la Momali, Jérémy Frérot, Alyosha Schneider, et puis un petit cadeau de la petite sœur d'RTL, RTL 2, pour le concert gratuit du dimanche après-midi, avec entre autres Saint Graal, Solane, Lisa Pariente, Boulevard Désert et Pierre Garnier. Je vous embrasse, rendez-vous dans les travées du Festival ODP, l'œuvre des pupilles des pompiers. C'est pour la bonne cause, donc venez nous retrouver, on vous y attend si vous êtes dans la région.
Bonus track.
Éric Jean-Jean sur RTL.
Rejoignez la communauté Bel RTL sur Facebook et Instagram.
Découvrez les coulisses.
Échangez avec nos invités,
nos équipes,
vos animateurs.
Participez au débat.
Et tentez de remporter de superbes cadeaux. Rejoignez-nous et vibrez avec Bel RTL au quotidien sur Facebook et Instagram. Bel RTL. Tous les soirs, Bel RTL vous offre toute la musique que vous aimez.
L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.
L'horreur dans l'Oise à Crépy-en-Valois, une mère de famille et son fils de 14 ans tués à la machette. Des actes de cannibalisme auraient été constatés. Le suspect et le fils aîné, il est en fuite.
Bonjour, il fallait qu'il tue. Et pour cela, il avait choisi d'éliminer au couteau, à la machette, à la barre de fer, toute sa famille. Il avait dans la tête de continuer, de faire d'autres victimes, des femmes en priorité, dont une de ses professeurs. C'est avec effarement, à la fin de l'hiver 2007, que les gendarmes de l'Oise, et bientôt la France entière, vont découvrir le profil de Kevin Clabot, 18 ans, dans le pavillon où il vivait, au sein d'une famille tranquille, travailleuse et unie. Il venait de massacrer sa mère et son petit frère de 14 ans. Le fils aîné ne s'est pas arrêté là. Il a aussi goûté à la chair de ses victimes, la chair des siens. De quoi le faire basculer dans la rare catégorie des meurtriers cannibales. Comment ce bachelier s'est-il enfermé dans une telle névrose? Que racontent ces meurtres abominables? Question posée aux invités de l'heure du crime, la seule émission radio 100% fait divers. Kevin Clabot, les rêves mortels d'un cannibale. C'est tout de suite sur RTL. Mardi 13 mars 2007, 20h30, les pompiers de Crépy-en-Valois sont appelés pour une agression dans un pavillon, route de Soissons, au numéro 51. Sur place, les pompiers tombent tout de suite sur Michel Clabot, 41 ans, le père de famille. Sur le trottoir, un état de choc, une plaie ouverte au front, le bras droit fracturé. Autour de lui, son beau-frère et sa belle-mère qu'il a appelé au secours. Sans dire un mot, Michel Clabot guide les pompiers dans la maison. Dans la salle de bain, une femme habillée gît dans la baignoire. Elle a été défigurée. Du sang partout, sur les murs, au plafond. Un couteau à la lame cassée dans le lavabo, au premier étage. Dans une chambre d'adolescent, un jeune garçon sous un drap ensanglanté. Les gendarmes découvrent à leur tour le massacre. L'unique témoin, Michel Clabot, est entendu à 21h45. Il est électricien, employé à Paris au ministère des Finances. Il est arrivé chez lui vers 20h10. Il est passé par le sous-sol, il a entendu quelqu'un courir derrière lui. C'était son fils aîné, Kevin, 18 ans. Il avait les cheveux rasés très courts. Il portait un pantacourt, un t-shirt, un blouson de cuir noir. « Je ne sais pas d'où venait cette machette », dit le papa. Kevin l'a frappé à la tête, mais il a pu le maîtriser. La seule phrase que mon fils a prononcée, c'était « Tue-moi, je suis fou, tue-moi », dit Michel Clabot. Il ajoute « Je n'aurais jamais pu faire ça ». Je l'aime. Le père dit avoir enfermé Kevin dans le garage, mais celui-ci s'est depuis enfui. Le médecin légiste, le docteur Bernard Marc, est sur place. Il note que le chemisier et le jean de la femme retrouvés dans la baignoire vide sont détrempés. Le meurtrier l'a douché pour laver le sang. Le visage de la malheureuse est tellement détruit que Michel Clabot lui-même, en entrant dans la salle de bain, n'a pas reconnu son épouse. Valérie Clabot, 41 ans, a reçu de nombreux coups de couteau de cuisine, au sternum, à la tête, à la cuisse, où la lame s'est enfoncée jusqu'à la garde. La mère de famille a été tuée autour de 9h du matin. Elle allait partir au travail. La deuxième victime, le fils cadet de la famille, Romain, 14 ans, a été tué, lui, dans l'après-midi, au retour de l'école. La tête ensanglantée. Il porte des coups de machette. L'adolescent a été quasiment décapité. Après le décès, le docteur Marc note une trace en arc de cercle sur l'épaule gauche, une trace de morsure humaine, comme si on avait voulu le manger un peu, écrira le légiste. Kevin Clabot est recherché. Signalement diffusé à toutes les patrouilles de gendarmerie. Les chiens perdent sa trace à 150 mètres de la maison en direction de Vaumoise. Le jeune homme est considéré comme très dangereux. Les domiciles de ses grands-parents sont placés sous protection une semaine avant le drame. Du 28 février au 5 mars, Kevin a séjourné à un hôpital psychiatrique à Fitzjam. Sa mère s'inquiétait en effet depuis des mois du comportement de son fils. Il restait dans son coin, silencieux. Il regardait tout le monde avec un sourire. Des heures enfermées dans sa chambre à écouter du death metal. Lors de l'épreuve du bac blanc, ce très bon élève n'avait pas écrit une ligne. Les psys avaient détecté un trouble pré-psychotique, une personnalité de type schizoïde. Tatiana, sa copine, avait essayé de savoir ce qui n'allait pas chez lui. Il lui avait répondu « Bientôt, tu sauras ce que tu as à savoir. Tu sauras qui je suis. » Kevin Clabot, le tueur à la machette, est en cavale. Les enquêteurs font tout pour le retrouver. Ils craignent vraiment qu'il fasse de nouvelles victimes. Il faut donc effectivement lui mettre la main sur lui au plus vite. En attendant, tout le monde se pose des questions. Et en premier lieu, le père de famille, c'est un rescapé. Il va apprendre à l'hôpital, parce qu'il ne le sait pas, il n'a pas compris totalement ce qui se passait. Il va apprendre à l'hôpital que son épouse et son fils sont morts. Pas question qu'on lui donne à ce moment-là des détails, parce que la scène est beaucoup trop abominable. Bonjour docteur Marc.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous et d'avoir accepté notre invitation de l'heure du crime. Docteur Bernard Marc, médecin légiste, et vous êtes l'auteur de ce livre « Médecin légiste pour les morts et les vivants » publié chez Mareuil. Vous avez été le médecin légiste, je l'ai dit dans cette affaire, Kevin Clabot. Alors évidemment, pour les morts et les vivants, le titre, il est parfait, parce qu'effectivement, il y a ceux qui disparaissent, qu'on ne voit plus, et puis il y a ceux qui restent et qui portent... entre autres, leur peine sur les épaules pendant des décennies. Docteur Bernard Marc, c'est vous qui entrez dans cette maison. Les enquêteurs vous ont appelé. On est à Crépy, en Valois. Alors, vous avez fait des dizaines d'autopsies. Vous connaissez bien cette mécanique et cette découverte de corps. Sauf que là, il y a un spectacle qui est d'une grande furie. Vous-même, ça vous a beaucoup marqué. Vous le racontez dans votre livre.
C'est exact. C'est à la fois une grande furie et une méticulosité dans cette furie. Parce qu'il y a deux endroits, deux scènes de crime dans cette maison. Il faut imaginer une grande maison très propre, très nette, grande, des grandes baies, quelque chose de très tranquille, très paisible. Et puis une salle de bain avec une scène d'horreur, un couteau qui est cassé, mais pas un petit couteau, un grand couteau de cuisine, un visage tellement déformé qu'on ne peut pas reconnaître la personne. Vraiment, on peut pas reconnaître. Il faut imaginer que le visage commence à peu près aux oreilles, tellement il est détruit.
Il a été écrasé, c'est ça, hein ?
Écrasé. Des coups multiples, des plaies qui vont être extrêmement nombreuses à dénombrer. Une espèce de scène très curieuse parce que le corps a aussi été lavé, il a été nettoyé, douché dans cette baignoire, parce qu'il y a des lésions qui sont des lésions étranges. Il y a une lésion de morsure, qu'est-ce qu'elle vient faire là? Il y a des lésions aussi, un corps qui a été rigide, donc il est resté plusieurs heures. Et on sait qu'il y a eu l'élément déclenchant, c'est l'arrivée du père. Donc on a une heure de départ.
C'est ça. On a une heure de départ. Alors il y a quelque chose de troublant, mais vous allez m'éclairer là-dessus. Il y a une espèce de mise en scène. Parce que, je l'ai dit, le corps de la maman, il a été douché avec ses habits. On ne comprend pas très bien. Il y a un drap sur le petit garçon, enfin sur le garçon de 14 ans, sur l'adolescent. Donc c'est un peu étrange.
Ah, c'est très étrange, parce que ce côté scénarisé, ce côté isolé, les deux scènes de crime, faut imaginer la deuxième avec le jeune adolescent. Il est vraiment massacré, mais... On a quand même mis un drap sur lui pour le couvrir, massacré au sens que la tête ne tient plus que par un morceau de peau. Et tout autour, une pièce superbe avec toutes les coupes qu'il avait gagnées et quelque chose de très scandalé. On sent une scénarisation de cet endroit très inquiétant.
Un petit mot, vous l'avez évoqué, et vous repérez tout de suite, parce que évidemment vous avez l'œil, puis c'est votre boulot, vous êtes là, vous connaissez bien cette mécanique, encore une fois, du crime et de ces personnes qui sont mortes. Il y a une mort sur l'épaule du petit Romain. Et là, vous dites, C'est une morsure humaine.
Il y a les traces de la morsure humaine. Vous savez que le médecin légiste, à l'heure actuelle, il est à la fois pour voir les victimes. Le titre du livre l'indique, hein, pour les morts et les vivants, eh bien, on voit ces victimes décédées, mais on voit aussi les victimes vivantes. J'ai vu, par exemple, le père qui arrive aux urgences, il est pris en charge et il y a besoin de l'examen médico-légal. Et cette morsure-là, ben, c'est une morsure humaine, donc c'est complètement étonnant, et elle est récente.
Vous avez jamais vu ça, auparavant?
D'anthropophagisme
ou cannibalisme, vous connaissez pas, hein? On est d'accord.
Jamais.
Ouais, donc c'est parce que c'est extrêmement rare. Bonjour Jade Serrano.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous également dans le studio de l'heure du crime. Vous êtes journaliste d'investigation, spécialisé dans les dossiers de police et de justice. Et puis vous êtes l'auteur de ce livre qui est paru il y a quelque temps déjà, aux éditions du Rocher, Quand les hommes mangent leurs semblables. Alors évidemment, là vous aussi, il y a tout un chapitre sur cette affaire Kevin Clabot, chapitre très très bien informé. On va y revenir. Question très simple pour vous, Jade Serrano. Qui est ce garçon qui est en fuite? Il a 18 ans, Kevin Clabot. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça va pas très bien dans sa tête.
Bah oui, mais d'apparence, il a l'air plutôt d'aller bien, sauf en famille, en fait. En tout cas, il avait quelques amis, des petites amies. Il est dessinateur hors pair, bon élève, vous l'avez dit. Et puis, quand il est chez les autres, il fait des blagues, il est souriant, il est bavard. Voilà, rien ne laisse présager, en tout cas, qu'il pourrait commettre ce genre d'acte, si ce n'est sa maman, qui s'en inquiète énormément, puisque quelques mois auparavant, il reste, quand il est à la maison, tout le temps enfermé dans sa chambre, dans un univers extrêmement lugubre, empli de films d'horreur. Voilà, il est vraiment dans un univers criminel, déjà très, il trempe dedans.
Jade Serrano, la maman, ça peut être le déclic, parce que, résumons assez vite, mais c'est elle qui avait demandé l'hospitalisation en psychiatrie pour voir ce qui se passait dans la tête de ce garçon.
En fait, elle l'emmène chez le médecin de famille, avec sa grand-mère, avec sa mère, donc Valérie emmène Kevin, et en fait elles parlent toutes les deux au médecin de famille en décrivant les symptômes, en tout cas de Kevin, et puis sous prétexte, parce qu'il s'était fait un peu mal au doigt, il entre dans la pièce et il décide, en fait, avec l'accord de Kevin, d'entrer en hôpital psychiatrique. Pour être évalué, en tout cas. Il y reste une semaine et il dira ensuite, a posteriori, qu'il a manipulé les blouses blanches. Et il est passé comme ça entre les mailles du filet, puisque en fait, il avait fomenté cette tuerie familiale qui devait se transformer en tuerie de masse, hein, quelques temps après, depuis un an.
Le fils aîné est en cavale, il avait tout prévu depuis des semaines. Kevin Clabot, les rêves mortels du cannibale. Depuis des années, j'attends ce moment, cet instant si jouissif où le sol va s'écrouler sous vos pieds. L'enquête de l'heure du crime, on se retrouve dans un instant sur RTL.
Watch it burn.
Au programme aujourd'hui de l'heure du crime, l'affaire Kevin Clabot, un assassin soupçonné de cannibalisme. Dans l'Oise, en mars 2007, ce jeune homme de 18 ans a massacré sa mère, son petit frère de 14 ans, et il a tenté de tuer son père. Il est en cavale, une personnalité sombre et ultra-violente. Mercredi 14 mars 2007, lendemain de la tuerie, les experts de la gendarmerie sont toujours à pied d'œuvre dans la maison de la famille Clabot. Un spécialiste de la morpho-analyse des taches de sang dénombre 114 zones touchées. Les enquêteurs de la BRI de Senlis prélèvent partout des morceaux de chair, des éclats de dents, des cheveux. Les gendarmes visitent la chambre du suspect. L'ambiance y est délibérément lugubre. Des figurines, des affiches de films d'horreur, la crypte, Saw 2... The Host, dans son ordinateur, on retrouve des photos où Kevin est habillé comme les tueurs en série de films. Il tient des ciseaux, un scalpel, une machette. Dans l'ordinateur encore, une photo de Michel Fourniret, le tueur en série. Dans sa bibliothèque, des livres d'anthropologie, dont un intitulé « Cannibale, histoire et bizarrerie ». Les gendarmes saisissent trois longues lettres dans la chambre de Kevin Clabot. La première est d'ordre général. Ça y est, je ne vous vois plus. Enfin, j'en ai fini avec ce monde répugnant, sale et tranchant. Il ajoute, je rêve de parcourir les rues, fusil en main, en exécutant tout sur mon passage. Je rêve d'enfoncer une tronçonneuse dans les viscères de tout homme, me projetant divers morceaux et lambeaux de chair à la figure. Je fantasme sur d'immenses carnages. La deuxième lettre de Kevin Clabot est destiné à sa copine Tatiana. Il lui dit qu'il l'aime et qu'il l'aimera toujours. Les chroniques ont dérapé. Je n'en maîtrise plus rien, y compris moi-même. Le seuil de la folie et de la déraison me sont proches, écrit-il. Le troisième courrier est laissé à l'attention de la famille et donc des victimes. Il évoque son suicide. Depuis des années, j'attends ce moment, ce si jouissif instant où le sol s'écroula sous vos pieds. Mourir est pour moi devenu une nécessité. Je regrette déjà de ne m'être vengé que par mon propre sang. Regardez-moi, inerte et vidée de toute vie. Je ne vous souhaite en aucun cas bonheur et rétablissement. Sentez-vous accusé, car vous l'êtes. Son père, Michel Clabot, dit avoir discuté avec son épouse du comportement de Kevin. Moi, je pensais que c'était juste une crise d'adolescence, dit-il. Mercredi 14 mars, vers 17h, une automobiliste et sa sœur aperçoivent un jeune homme au crâne rasé, ensanglanté, qui marche en boitant sur le bord de la route à une douzaine de kilomètres de Crépy en Valois. Une autre femme qui circulait avec sa petite fille dit avoir eu peur en observant ce jeune homme qui se déplaçait comme un robot. Les gendarmes sont alertés. 17h50, Kevin Clabot est arrêté sans résistance. Il semble dans un état second, les yeux écarquillés. Il est perdu dans ses pensées. Kevin Clabot ne sera donc pas allé très loin, blessé dans la bagarre avec son père et il erre sans but au bord de cette route. L'enquête passe tout de suite évidemment au deuxième acte et on se demande ce que le fils va pouvoir dire, des regrets ou bien au contraire se réjouir de ce massacre. Tout est possible, on va le voir dans la suite de l'heure du crime. Il faut revenir aux constatations dans la maison du crime, elles sont importantes. Un jeune homme enfermé dans un monde très particulier. Jade Serrano, vous êtes avec nous dans cette heure du crime, auteur du livre « Quand les hommes mangent leurs semblables aux éditions du Rocher. Et vous, il y a un chapitre d'ailleurs consacré à cette affaire Kevin Clabot. Vous nous l'avez dit, sa chambre, son monde à lui, cette espèce de caverne d'ailleurs dans cette maison, c'est une tanière et il a tout préparé là, il a tout combiné.
Oui, il a tout combiné. C'est assez frappant quand on lit le dossier à la lumière du dossier. C'est que la chambre de son frère Romain est vraiment extrêmement joyeuse, colorée, avec les médailles dont vous aviez parlé, docteur, puisque c'était un champion de, enfin bon, à 14 ans, mais de gymnastique. Et puis, Kevin, qui est dans la pièce a l'air vraiment toute petite, alors qu'elle ne l'est pas du tout, mais tout est noir avec des posters à n'en plus finir de films d'horreur, enfin vraiment il a son univers Kevin, et même ses dessins, puisqu'il est très bon dessinateur, reflètent vraiment ce qu'il a, son intériorité.
Ouais, la plus sombre, hein. la plus sombre qui soit. Docteur Bernard Marc, vous êtes également avec nous, invité dans l'heure du crime. Vous êtes l'auteur du livre Médecin légiste pour les morts et les vivants, qui est publié chez Mareuil. Et vous avez été, je le répète, le médecin légiste dans cette affaire Kevin Clabot. Alors, c'est une question difficile que je vais vous poser, mais je ne sais pas si d'ailleurs vous allez pouvoir y répondre. Est-ce que, lorsque vous voyez ces gestes qui ont été effectués, vous nous avez dit c'est d'une très très grande violence. Vous avez rarement vu un tel acharnement. Une machette, un couteau, une barre de fer. Est-ce que ça peut être inspiré par ce qu'il regardait justement, ce garçon, ses livres, ses films? Il y a un livre sur le cannibalisme, enfin il y a beaucoup de choses dans cette chambre.
Alors, les premiers éléments qu'on fait, c'est d'aller faire un tour extérieur aux scènes de crime réelles dans la maison. Et dans cette chambre où on pénètre, il y a effectivement des posters et une statuette d'un personnage de film d'horreur avec une machette à la main, qui est là, le personnage qui est vraiment entré, une sorte de grande étagère lorsqu'on va rentrer chez lui.
Ça, vous le voyez tout de suite?
Ça, on le voit tout de suite. Et puis, on a des marques et des marques extrêmement profondes, des violence répétée, à ce côté répétitif de violence sur les deux corps, une volonté de les déformer, de les changer, des coups qui dépassent le nécessaire pour tuer quelqu'un. Il y a bien un acharnement, quelque chose qui a été très très prolongé, des violences qui se font dans un espace, hein, dans un lieu restreint. Donc il y a une volonté, une puissance de négation de l'autre qui est extrêmement importante dans cette scène de crime.
Et il y a aussi des actes post-mortem, c'est-à-dire après la mort, hein, qui ont été effectués. Ça, vous le constatez, ça, vous savez très très bien le déterminer.
Alors, le premier acte qui est le plus évident et très étonnant, c'est sur le corps de la mère qui est assise dans cette baignoire. Peut-être a-t-elle été d'ailleurs déplacée légèrement. Eh bien, il a été lavé complètement. Donc, il y a eu un lavage du corps, un douchage.
Cérémonie, presque.
Presque cérémonière, ouais. Presque, elle est très particulière, elle est laissée dans un endroit. De même, le frère est recouvert d'un drap. Donc il y a rien dans ces scènes qui indique un dépassement par la violence. La personne est capable de faire des actes de violence les plus extrêmes, répétés, avec un relatif calme, parce que après on va remettre un drap, repositionner. Il n'y a pas un acharnement, il n'y a pas une bagarre. Quelquefois dans des scènes de crime, on va voir quelqu'un qui s'est pris une dizaine de coups de couteau, mais les gens se sont battus, ils ont été blessés, ils ont combattu. Là, il y a toute une organisation, la même organisation qu'il aura quand il va attaquer son père.
En surprise.
Par surprise, en l'attendant, et déguisé. Où il l'attend habillé dans ce même personnage qui est celui sur la petite statuette.
Avec la machette. Et le papa va se dire, d'ailleurs je me demande d'où sortait cette machette, il ne l'avait jamais vue, et pour cause, il l'avait cachée. Il l'avait dissimulée dans la forêt. Jade Serrano, très important, et Bernard Marc aussi en parle dans son ouvrage, ce sont les fameuses lettres de Kevin Clabeau. Trois lettres où il signe évidemment ses crimes, ça on a compris bien que c'était lui, mais ça va très très loin. Il y a cette volonté de destruction terrifiante.
Oui, il veut détruire le monde. En fait, ce qui est assez frappant, c'est quand on voit les scènes de crime de Kevin, on se dit qu'on a affaire, comme l'a dit le docteur, à un être de sang-froid, et en même temps totalement délirant, parce qu'il y a un acharnement terrible. J'ai jamais vu une scène de crime où il y avait autant de sang partout. Enfin, il faut bien que nos auditeurs le visualisent. Et puis, on lit ensuite ces lettres, qui sont en fait absolument pas délirantes. C'est-à-dire que son délire est...
C'est très bien écrit d'ailleurs.
Très bien écrit, c'est écrit très lisiblement. Son écriture, on le voit un peu mégalo comme ça, où il a fait un grand K et un grand C. Voilà, bon, ça c'est un peu à la Kevin. Mais il donne un mobile voilà, qui dit que ben, je déteste le monde et que vous êtes... en fait, je vous hais et je veux que vous disparaissiez. Et plutôt que de me faire disparaître, puisque c'était le projet initial, son suicide, il décide, quelques mois auparavant, de tuer sa famille et il crée une liste pour ensuite déclencher une tuerie de masse dans son lycée, le lycée Saint-Vincent de Paul.
Ces lettres, Bernard Marc, vous les avez lues aussi, et vous les évoquez dans votre ouvrage, elles sont très importantes, hein, c'est presque pivot dans cette affaire. Elles racontent aussi beaucoup de choses pour le légiste que vous êtes. Elles permettent de comprendre.
Oui, il y a une véritable volonté. Alors, elles sont très organisées, elles ont un aspect très bien écrit, très calme, mais on sent derrière un raisonnement qui est un raisonnement faussé, qu'on a souvent dans les raisonnements paranoïdes. Je ne veux pas faire de psychiatrie, mais c'est un raisonnement qu'on a, qui organise et qui donne une interprétation faussée du monde, une interprétation qui a l'air d'être logique, mais dans l'illogisme le plus total. Et puis ce qui va intéresser véritablement les enquêteurs, c'est qu'il y a une liste de noms à la suite, il y a une liste qui va évoquer son suicide, mais on sait que très souvent dans les personnalités paranoïdes, ils menacent, ils imaginent se suicider. Il y a très peu de suicides chez les paranoïaques vrais, mais il y a véritablement là dans sa liste des noms. Et donc, il va y avoir dans la soirée, en même temps, la scène de crime. Et de l'autre côté, des patrouilles qui vont protéger les noms cités, ces camarades de lycée, comme vous le disiez, qu'il faut protéger, puisque on ne sait pas où il est. Il est dans la nature. Il sera même, d'ailleurs, à un moment, il rentre même dans la maison, puisque nous, étant à la scène de crime, on l'a entendu remarcher, rouvrir, rentrer dans la maison, puis ressortir à un très court moment pendant qu'on était en train de faire la scène de crime.
Le fils aîné est en garde à vue. Il va longuement s'expliquer. Kevin Clabot, les rêves mortels du cannibale. Je regardais ma mère dans le blanc des yeux. Elle me disait que je lui faisais peur. L'enquête de l'heure du crime. Mais pourquoi vouloir goûter la chair de ses victimes? À suivre dans un court instant sur RTL.
L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.
Nos chaussures au placard et on prend la guitare, un CD de Marley. On laisse les enfants aux parents, on prendra tout notre temps. Je te garde pour moi. De Paris ou d'ailleurs, si tu me suis, on prendra le meilleur. Tout est permis et si ça nous va. On peut fermer un peu la porte, oublier un peu les autres, la voiture et la ville. On pourrait couper la télé, nos deux portables et s'en aller, toi et moi pour une fois. De Paris ou d'ailleurs, si tu me suis, on prendra le meilleur. Tout est permis, et si ça nous va bien. Dans nos vies, c'est peut-être pas mal aussi. De Paris ou d'ailleurs, si tu me suis, on prendra le meilleur. Tout est permis, et si ça. Destination. Destination ailleurs.
C'est l'heure du crime sur RTL.
Avec Jean-Alphonse Richard.
En garde à vue, Kevin Clabot a reconnu les crimes et des actes cannibales. Toute la question désormais est de savoir s'il pourra être jugé.
Retour aujourd'hui dans l'heure du crime sur le cas Kevin Clabot, meurtrier cannibale. Ce jeune homme, 18 ans, a massacré sa mère et son frère de 14 ans dans l'Oise le 13 mars 2007. En fuite, il est arrêté 24 heures plus tard, aussitôt placé en garde à vue. Mercredi 14 mars 2007, 17h50, Kevin Clabot est interrogé par les gendarmes de la brigade de recherche de Senlis. Il parle d'une voix monocorde, sans excitation ni affect. Il décrit sa journée meurtrière. Son frère est parti à l'école à 8h. Sa mère allait quitter la maison. J'avais qu'une demi-heure pour la tuer. Elle était en train de se maquiller. Je suis arrivé devant elle avec des gants de jardinage, le couteau caché. Au bout d'une minute, elle a regardé dans le blanc des yeux. Elle m'a dit que je lui faisait peur, j'ai foncé sur elle. Kevin Clabot dit avoir poignardé la victime. La lame a cassé. Il est parti chercher une lourde barre de fer rouillée. J'ai dû lui asséner 6 ou 7 coups avant qu'elle rende son dernier souffle, raconte-t-il. Après la mort de sa mère, il est parti à vélo dans la forêt proche pour aller chercher 2 marteaux et 2 machettes qu'il cachait depuis longtemps. Quand son frère est rentré de l'école, il l'a fait monter dans la chambre sous prétexte d'un jeu. Il lui a demandé de se couvrir avec le drap protégeant le billard. Je lui ai mis un coup de machette dans le crâne. Il n'a poussé aucun cri. Je voulais le décapiter. Il y avait du sang partout, sur le plafond, le billard et sur moi. Kevin Clabot raconte avoir léché le sang de sa mère sur le carrelage et a avalé un bout de sa cervelle. « Je n'étais pas dégoûté, pas écœuré », précise-t-il. Il a fait la même chose avec le sang de son frère. « J'ai arrêté parce que j'étais écœuré par le goût et l'odeur. » En attendant son père qui allait le mettre en fuite, il a regardé la télé près du corps de son frère. Il s'est brossé les dents à côté de celui de sa mère. Voilà donc quelques extraits des déclarations de Kevin Clabot en garde à vue. Je le précise que ces extraits sont très édulcorés par rapport à ce que raconte vraiment Kevin Clabot, parce qu'il est rentré dans des détails insoutenables. C'est pas à nous d'ailleurs de répercuter ces détails, donc évidemment on n'en fera pas part dans cette émission. Docteur Bernard Marc, vous êtes avec nous dans l'heure du crime et je vous en remercie, vous nous aidez à mieux comprendre cette affaire. Vous avez été le médecin légiste dans cette affaire Kevin Clabot, et puis vous êtes l'auteur du livre « Médecin légiste pour les morts et les vivants » publié chez Mareuil. Alors il y a effectivement ces traces d'anthropophagie, de cannibalisme qui sont découvertes par les enquêteurs. Il a essayé de goûter au corps des deux victimes. Ça, vous nous disiez tout à l'heure, vous ne l'avez jamais vu. Comment est-ce que ça se présente, ça, en matière de médecine légale? C'est, encore une fois, c'est rarissime.
Là, on va avoir des comportements purement psychiatriques. C'est ce qu'on voit déjà sur la scène de crime. C'est une mise en scène, une préparation. Vous l'avez dit tout à l'heure, il y a une préparation qui est bien en amont. Il avait caché des machettes, des marteaux plusieurs semaines auparavant. Donc il y a une préparation, une volonté, une scénarisation de cette scène. Véritablement, comme dans les tueurs en série qui ont toute une façon de faire, de préparer les choses. On les sent extrêmement préparés, ces morts. Et c'est ça qui est visiblement très inquiétant tout de suite dans la première image qu'on a.
Et vous parlez, alors c'est très intéressant, vous parlez de tueur en série. Son attitude en garde à vue, il a tout prévu, tout organisé. Il était parti pour tuer plusieurs personnes, apparemment Kevin Clabot. Il s'en cache à peine.
Ah, il l'a écrit. Un de ses écrits qui est en parallèle de l'exploration de la scène de crime qu'on fait véritablement très scientifiquement. Là, ça a été fait dans les règles de l'art avec la gendarmerie qui avait considéré que tout le pavillon était scène de crime pour ne pas avoir d'erreurs ADN et autres. Ça a été fait on ne peut mieux. Et puis, il y a quand même une liste de noms. Donc, on les voyait pas en voyant des patrouilles un peu pour protéger les uns les autres parce qu'il est dehors et que sa volonté criminelle, elle est absolument certaine.
Et elle est infinie, puisqu'il va dire « je veux faire des massacres ». Il écrit lui-même. Jade Serrano, vous êtes également avec nous, journaliste, auteur du livre « Quand les hommes mangent leurs semblables », publié aux éditions du Rocher. Il y a tout un chapitre qui est consacré à cette affaire, Kevin Clabot. Comment est-ce qu'il explique, s'il l'explique d'ailleurs, ce besoin de chair humaine? Il se souvient de ça, de ce qu'il a fait là-dessus?
Ça ne peut pas être vraiment rationalisé. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il a prévu, en fait, de manger ses parents et son frère autour et de créer un banquet en fait où ils les auraient assis et ils les auraient fait eux-mêmes s'auto-manger. C'était tout son délire. Et puis il y a aussi cette dimension nécrophage où Kevin avait prévu aussi de violer les cadavres de ses parents. Donc, oui, parce qu'il y a une dimension quand même sexuelle chez Kevin qui est indéniable et dont il faudrait pas non plus faire totalement l'impasse. C'est qu'effectivement il y a ce profil de serial killer avec cette propension à être aussi un serial violeur.
Dément ou pas dément? Au psychiatre d'en décider. Kevin Clabot, les rêves mortels du cannibale. La voix m'a dit de le faire, c'était tuer ou être tué. L'enquête de l'heure du crime. On se retrouve dans un instant sur RTL.
Bonne info, bonne musique, bonne humeur.
Belle RTL remonte le son.
Belle RTL, vibrez ensemble.
Consacré aujourd'hui au cas Kevin Clabeau, meurtrier cannibale. Ce jeune homme, 18 ans, a tué sa mère et son petit frère dans l'Oise, 13 mars 2007. Son père a réussi à le mettre en fuite. Après des aveux complets en garde à vue, il est présenté à l'expert psychiatre. Vendredi 16 mars 2007, le docteur Jean-Claude Archambault s'entretient avec Kevin Clabeau. Ce dernier lui confie entendre depuis longtemps des voix dans sa tête. Pour le jeune homme, la question était simple, tuer ou être tué? Il se souvient d'actes de nature cannibale sur sa mère, mais il ne peut pas les expliquer. Aucune idée. La voix m'a dit de le faire sur un court moment, une vive pulsion, déclare-t-il. Il ne se souvient pas, en revanche, d'avoir mordu le cadavre de son petit frère. Ces pulsions anthropophagiques lui seraient apparues il y a environ 2 mois. Le psychiatre demande à Kevin Clabeau s'il compte encore tuer. Il répond spontanément « Oui. Au gendarme, en garde à vue, il avait indiqué qu'il avait en tête de s'en prendre à d'autres personnes, des femmes, et notamment à une de ses professeurs. Le médecin conclut à la dangerosité psychiatrique maximale du suspect. Il décrit une pathologie psychotique de type schizophrénique. Kevin Clabeau est mis en examen, mais il est placé tout de suite à l'unité pour malades difficiles de Villejuif. Mercredi 25 avril 2007, un mois et demi après le drame, Michel Clabeau, le père de famille, est retrouvé pendu à un cerisier dans le jardin de la maison du crime. Il avait l'air de tenir le choc, mais c'était un homme brisé, confie une amie de la famille dans le journal Le Parisien. Un autre proche indique, Michel est la troisième victime de ce désastre. Lui aussi, c'est son fils qui l'a tué. Et effectivement, toute la famille désormais est morte. Le papa s'est suicidé, il s'est pendu à un arbre dans le jardin de la maison. Il pouvait plus supporter, évidemment, cette affaire. Docteur Bernard Marc, vous êtes avec nous dans cette heure du crime, auteur du livre « Médecin légiste pour les morts et les vivants » publié chez Mareuil. Évidemment que vous la connaissez parfaitement, cette affaire, puisque vous avez été le médecin légiste dans l'affaire Kevin Clabeau. Et vous avez, alors, vous en parlez dans votre livre, et c'est très émouvant ce que vous racontez là-dessus. Vous avez rencontré le père Michel Clabeau après évidemment les crimes, un homme brisé, c'est ce que vous racontez. Vous avez essayé presque de lui remonter le moral comme si c'était mission impossible.
Alors, c'est un rôle très difficile qu'on a en tant que médecin légiste, mais en général c'est donné un petit peu aux médecins dits seniors dans une structure hospitalière. D'abord j'ai eu à lui annoncer les décès.
C'est vous qui lui apprenez.
Et j'ai eu à faire en sorte que les deux corps qui avaient été aussi sauvagement mutilés puissent reprendre une sorte d'apparence humaine, en tout cas sur toutes les parties qui avaient été lésées, notamment les deux faces. Ça a été un travail très long de reconstitution des corps pour essayer de leur redonner quelque chose pour que, au moment de la mise en bière, vous imaginez la tension, il y a le père qui est blessé, il est là, il a encore ses pansements, il y a la famille, et on les rend, parce que l'idée c'est aussi de rendre le plus vite quand même les corps de la famille, de pas rajouter une douleur à la douleur. Donc c'est effectivement un accompagnement très profond, et puis cet homme est parti ensuite à essayer de trouver un petit peu le calme, n'a pas voulu avoir forcément un suivi psychiatrique qu'on lui avait vraiment conseillé, et malheureusement il a été jusqu'au bout, parce que il a été évidemment symboliquement recherché sa mort à l'endroit où la mort avait frappé et son fils et sa femme.
Il vous parlait de son fils, de Kevin, il faisait allusion à ça, il comprenait, il essayait de comprendre.
Il était totalement dépassé par l'horreur aussi des actes, et dans une peine effroyable avec en plus une volonté qui avait été celle de son fils aîné de détruire la beauté de sa mère et de son jeune frère, qui étaient deux personnes en pleine santé physique. On voit dans la maison, il y avait plein de photos, on les voyait resplendissants, et il y a eu un acharnement, donc c'était extrêmement difficile, d'où le travail qui a été fait, qui a été un long travail d'essayer de reconstituer un peu, de donner figure humaine à ces deux personnes, parce que sinon on était dans l'intolérable. L'intolérable supplémentaire étant de dire les corps sont tellement abîmés qu'on les met tout de suite en bière, fermée, oui. C'est pas possible. Mais donc vous voyez, il y a une chose vraiment très très importante, et une volonté, dans les actes faits, il y avait une volonté de détruire une partie.
Je voulais vous poser la question, parce que juste un petit mot là-dessus, vous êtes légiste, il y a une volonté d'effacer le visage de son frère et de sa mère. Oui. Il ne faut plus qu'ils existent.
Oui, et il ne faut plus qu'ils apparaissent, et il y a véritablement une destruction qui s'organise autour de cette partie-là, et la partie tellement significative. Comment décrire quelqu'un sinon que par son visage.
Bien sûr.
C'est notre humanité. Enfin, je veux dire, on n'est pas en train de reprendre des éléments de philosophie de Lévinas, le visage de l'individu. Eh bien, c'est là aussi, ce visage et une volonté de l'enlever une figure humaine, voilà, pour qu'il n'ait plus figure humaine.
Jade Serrano, vous êtes avec nous également dans l'heure du crime, journaliste, auteur du livre « Quand les hommes mangent leurs semblables » publié aux éditions du Rocher. Alors il est face au psychiatre Kevin Clabot. J'ai raconté, évidemment, j'ai résumé ce que dit le psychiatre, le juge extrêmement dangereux, dangerosité maximale, il écrit le psychiatre, ce qui est assez rare. Et donc il va prendre tout de suite, il est mis en examen, mais il va prendre tout de suite la direction de effectivement du
maladie difficile.
Des maladies difficiles. Vous pouvez nous dire un mot là-dessus, effectivement, il se retrouve là-bas. Parce qu'il n'y a pas moyen de comprendre exactement ce qui s'est passé.
Il fait un petit tour par Fresnes, hein, quand même, avant de se retrouver en UMD. On était pour malade difficile. Le fait est que Kevin Clabot, il a un profil pré-psychotique, puisque bon, à l'époque, il a 19 ans, on ne peut pas encore asseoir un diagnostic clair, mais il était évident, en tout cas, qu'on a affaire à un malade mental. Et en France, il y a un principe de loi, on ne juge pas les fous. Donc il y a des structures qui existent pour les prendre en charge, ça s'appelle des unités pour malades difficiles et non pas dangereux, où ces individus se retrouvent pour être soignés, resocialisés. Voilà. Alors après, Kevin, il a quand même un profil extrêmement particulier. Il est enfermé depuis 17 ans maintenant, et il est considéré, et moi je le considère aussi comme tel, comme l'un des criminels les plus dangereux de France. Vraiment, ça pose une question réelle, parce qu'aujourd'hui Kevin a 37 ans. Que va-t-il advenir de lui ?
Le fils aîné sera-t-il un jour jugé ? Kevin Clabot, les rêves mortels du cannibale. Merci de vous préoccuper de l'avenir de mon fils. L'enquête de l'heure du crime, je vous retrouve tout de suite sur RTL.
Hanging in the air.
sur RTL.
Avec Jean-Alphonse Richard.
Dans l'heure du crime aujourd'hui, l'affaire Kevin Clabot. En mars 2007, dans l'Oise, ce jeune homme, 18 ans, a tué sa mère et son frère de 14 ans. Il a avoué ce massacre insensé suite à des pulsions. Il a aussi reconnu des actes cannibales. La justice doit dire s'il peut être jugé. Lundi 11 février 2008, 11 mois après la tuerie de Crépy-en-Valois, le parquet de Senlis réclame un non-lieu psychiatrique en faveur de Kevin Clabot, désormais âgé de 19 ans. Le jeune homme se trouvait au moment des faits atteint d'un trouble psychiatrique ayant aboli son discernement, indique le substitut du procureur. Avant de se suicider, Michel Clabot, le père de famille, avait demandé à ses parents et beaux-parents de se préoccuper de l'avenir de son fils. La partie civile ne fera pas appel de la décision judiciaire. Kevin Clabot, interné à l'hôpital de Villejuif, ne sera jamais jugé.
À la base, je devais me suicider, mais beaucoup de contraintes se sont mises devant moi. Et le bouleversement des choses et le temps a fait que mes perceptions ont changé et j'ai craqué à la tuerie au lieu du suicide.
J'ai craqué à la tuerie au lieu du suicide. Effectivement, il ne s'est pas suicidé. Kevin Clabot, sa voix lors d'une des gardes à vue menées par les enquêteurs. Jade Serrano, vous êtes avec nous dans cette heure du crime, journaliste d'investigation. Vous êtes auteur du livre « Quand les hommes mangent leurs semblables », publié aux éditions du Rocher. Il y a un très long chapitre qui est consacré à cette histoire Kevin Clabot avec beaucoup, beaucoup de...
Ouais, première partie du livre. Ouais.
Beaucoup, beaucoup d'informations, beaucoup de détails. Qu'est-ce qui devient Kevin Clabot aujourd'hui?
Kevin Clabot aujourd'hui a 37 ans. Il est toujours hospitalisé en unité pour malades difficiles. C'est assez étonnant. J'ai appris ça la semaine dernière, ce qui m'a été confirmé par la famille. Il a demandé une extension et un assouplissement de ses conditions d'hospitalisation qu'il a obtenu. Donc désormais, Kevin est autorisé à sortir, accompagné bien évidemment d'un personnel soignant, pour faire des emplettes en dehors de l'hôpital. Et donc nous espérons en tout cas, la famille et moi-même, que cet assouplissement de son hospitalisation ne sera pas étendu à des permissions de sortie plus larges. Et surtout, on s'inquiète. Alors non pas qu'il puisse aller dégourdir les gens bord de l'unité pour malades difficiles. On comprend que 17 ans après, il doit avoir une lassitude, un ennui. Et ça,
un traitement médical.
Oui, mais après, Kevin est pervers au dernier degré. Enfin, pardonnez-moi, il y a des pathologies qui soignent et d'autres non. Et en fait, on s'inquiète juste de savoir ce qu'il va advenir de Kevin. Et finalement, quelle place on peut lui accorder et a priori, pas parmi nous. Donc, il va falloir trouver des solutions annexes. Une seule personne de la famille vient le visiter. Elle est assez âgée. Elle n'est donc pas éternelle. Et donc, la question se pose de qui prendra le relais également. Et voilà, donc ça pose quand même beaucoup de questions sécuritaires et puis sociétales.
Vous nous disiez que vous avez rencontré des témoins de l'époque. Il y a des personnes encore qui ont peur aujourd'hui. Ils vous ont dit qu'ils avaient peur de le voir sortir.
Ils sont terrorisés par Kevin pour ce qui est de ceux qui étaient inscrits sur cette fameuse liste, hein, ceux qu'il a voulu assassiner. Et puis, pour certains de ses proches, ses potes, etc., ils gardent quand même un bon souvenir de Kevin, parce que Kevin, c'est vraiment Mr. Jekyll et Mr. Hyde, et il a deux facettes de sa personnalité. C'est un être hautement froid et en même temps d'une sensibilité à fleur de peau. Mmh. Et donc cette dichotomie comme ça en lui qui ne se rencontre jamais. Et donc c'est pour ça qu'aussi on s'interrogeait beaucoup avec la famille. On se disait, mais il a obtenu l'assouplissement de ses conditions d'hospitalisation, mais en fait son grand jeu à Kevin Clabot, c'est de duper les blouses blanches. Il ne faudrait quand même pas jouer avec le feu et se dire que 17 ans après, sous prétexte qu'il soit stabilisé, il n'ait pas encore cette envie de tuer. Donc attention. C'est vraiment attention.
Effectivement, c'est une question qui se pose. Il y a une espèce de warning, comme diraient les anglo-saxons, là, qui s'allume. Et effectivement, il faut faire attention, il faut regarder. Mais je pense qu'il est, bien entouré par les gens qui sont chargés de le surveiller. Docteur Bernard Marc, vous êtes avec nous dans cette heure du crime, médecin légiste. Vous étiez le légiste dans cette affaire Kevin Clabot, auteur du livre Médecin légiste pour les morts et les vivants, publié chez Mareuil. Il y a tout un chapitre qui est consacré dans votre livre, vous aussi, à Kevin Clabot. Pourquoi vous avez choisi cette affaire? Parce qu'elle vous a profondément marqué? Parce qu'elle a apporté quelque chose de plus à votre expérience de légiste?
profondément marqué parce que là, il y a une volonté, une scénarisation de la mort, une violence très particulière et beaucoup de choses qui sont derrière. Il y a d'abord des éléments aussi qui nous inquiètent et qui sont importants, qui sont le fait de cette entrée dans une pathologie schizophrénique et ce risque particulier avec des violences qui peuvent être mortelles ou non mortelles. Le médecin légiste voit les deux. Et puis, cette volonté très particulière de nuire, hein, qui n'est pas sur un coup de tête, qui n'est pas sur un moment d'humeur. Donc, les choses véritablement très lourdes, avec un aspect très recherché dans la destruction de l'autre, dans la destruction de la figure, des éléments qui nous ont véritablement frappés. Et puis, c'est un drame collectif,
ouais.
Un drame qui est vécu aussi par un survivant, au moins pendant un temps. Donc, c'est un aspect tout à fait particulier dans notre exercice.
Ouais, c'est ça, c'est une affaire particulière avec cette notion aussi de cannibalisme, hein, voilà, qui ça aussi vous a
totalement
interpellé.
On apprend parce que au fur et à mesure des rapports avec les enquêteurs, eh bien ils rapportent des éléments et tout le monde, même la brigade de recherche, c'est des gens qui font des affaires criminelles, qui sont habitués, tout le monde était très déstabilisé.
Merci infiniment, docteur Bernard Marc et Jade Serrano, d'avoir été tous les deux les invités de l'heure du crime. Merci à l'équipe de l'émission, rédactrice en chef Justine Vigneault, préparation Marie Bossart, Théa de Turckheim, réalisation en direct Nicolas Godet.
On aura beau me dire, pour être bien, faut beaucoup d'argent. Et sourire, il y a pire, même si c'est noir dans le dedans. Faire du sport, ne pas grossir, être joli, évidemment. Une estime de soi brûlante. Travailler jusqu'à épuisement, et puis reprendre un autre calmant. Faire un peu de chirurgie avant, pour effacer ce qu'a fait le temps. On aura, vaut me dire, mais je crois que je suis au courant. Finalement, vaut mieux en rire, pour être bien, faut faire semblant. Ouais. Plus le temps passe, plus je m'essouffle. Plus le temps trace, plus je découvre. J'ai qu'un but dans la vie, c'est d'être bien avec moi-même. D'être bien avec moi-même, d'être bien. Des sacrifices j'en ai fait, les hommes solitiques je connais. Au secours, j'ai même pris la boîte entière jusqu'à plus voir d'effet. Tous les amis j'ai appelés, eux se sont déjà sauvés, ils ont quitté la capitale. Pour ceux qui dansent pieds nus sur du béton brûlant. Puis moi je suis resté sur ce même divan. Ouais. Plus le temps passe, plus je m'essouffle. Plus le temps trace, plus je découvre. J'ai qu'un but dans la vie, c'est d'être bien avec moi-même. D'être bien avec moi-même, d'être bien. Milliards de gens en joie, et moi, et moi, et moi, et moi. Pourtant, je n'ai besoin de rien. J'ai toute ma vie clé en main. 8 milliards de gens qui se noient. Et toi, et toi, et toi, et toi. Si tu veux attraper ma main, celle qui se donne du mal pour être bien. Pour être bien. Plus le temps passe, plus je m'essouffle. Plus le temps trace, plus je découvre. J'ai qu'un but dans la vie, c'est d'être bien avec moi-même.